voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de vos achats sur Internet si vous résidez sur le continent africain. Avec la pandémie et les couvre-feux, beaucoup de consommateurs et de consommatrices ont découvert le commerce en ligne. Mais la confiance n'est pas toujours au rendez-vous. Alors il y a bien sûr en amont le problème de l'accès à Internet, l'accès à l'électricité et ensuite les systèmes de paiement, l'emballage des produits, la livraison et à l'arrivée, la qualité par rapport aux descriptions promises. Autant de casse-tête pour les clients. D'un point de vue économique, quand un frigo arrive dans un village, acheté via WhatsApp, payé avec une tontine pour un usage partagé, forcément, on se questionne, on se demande si le commerce en ligne peut représenter un levier de développement économique, sans parler de tous les petits métiers en ville, autour de la livraison, autour du stockage des produits. Nous allons en discuter avec nos invités. Thierry Barbeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur numérique de l'ONG La Guilde, qui finance des micro-projets en Afrique. Vous connaissez bien le commerce informel et on parlera d'ailleurs de ce que le commerce en ligne peut apporter au commerce informel. Ça peut sembler paradoxal à première vue. Vous êtes aussi consultant en stratégie digitale sur le continent africain depuis une quinzaine d'années. Également avec nous, des acteurs du commerce en ligne. Mohamed Abtesso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Dakar, vous êtes directeur général de Jumia Sénégal, enseigne de e-commerce, première enseigne de e-commerce sur le continent africain. Également avec nous, Bonnie Maya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa, directeur général de e-Mart, une plateforme de commerce en ligne de produits alimentaires en RDC. Et Tinda aussi, Tinda qui est un service de livraison à domicile et point relais. Et vous organisez aussi le e-commerce, le salon du e-commerce et fintech à Kinshasa. Les fintech, hein, c'est toutes les technologies digitales au service de la finance, notamment pour les paiements. Et quant à vous, les voisins, les voisines, c'est le moment de nous raconter vos expériences d'achat sur Internet. Est-ce que vous achetez à des particuliers, sur les réseaux sociaux, à des petits commerçants ou bien sur des gros sites de e-commerce? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Surtout, appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Allez, je vous lis quelques messages qui nous sont arrivés sur nos réseaux sociaux. Miguel est en RDC. Le commerce en ligne, oui, mais encore faut-il avoir de l'Internet et des moyens pour consommer. Couverture de l'électricité en RDC. Je pense que notre invité Bonnie Maya est bien placé pour répondre sur la couverture en électricité et donc l'accès à Internet. Bonnie Maya.
Oui, effectivement, nous avons un faible taux de pénétration d'Internet en RDC. Récemment, le ministère de Petit Antique a annoncé que nous étions couverts à 15%, donc soit 14 millions de potentiels utilisateurs.
Ouais. 15%, c'est la moyenne sur tout le territoire et parfois c'est zéro ou très peu.
Exactement, ce qui reste quand même un frein quant au développement du e-commerce dans le pays. Mais il y a aussi des problèmes liés à l'électrification. Nous avons un faible taux également qui est de moins de 17% dans tous les territoires du pays. Et ça reste aussi un des freins de cette mise en valeur du e-commerce.
Là, vous parliez de l'accès à Internet.
Non, il y a d'abord, selon sa question, il y a d'abord un problème de taux de pénétration Internet et ensuite un problème également de taux d'électrification sur les territoires nationaux.
Dans les deux cas, on est en dessous de 20%.
Exactement.
Également, un témoignage d'Ababakar à Niamey au Niger. Moi, je n'ai jamais fait mes achats sur Internet. Je n'ai jamais pris ce risque car c'est très facile d'être escroqué. Thierry Barbeau, les arnaques en ligne?
Les arnaques en ligne, bien sûr, c'est toute la question. Il y a tout un lobby anti-e-commerce avec « Ouh là là, la carte bleue, est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on va recevoir le produit? Est-ce qu'il est de qualité ?» Mais finalement, est-ce que je ne peux pas le trouver moins cher ailleurs et comment ça fonctionne? Et je pense qu'il faut, c'est ça, vous l'avez dit, c'est le mot-clé, c'est la confiance. Rétablir la confiance, ça passe par le développement des infrastructures. Là, j'étais au Rwanda récemment, il y a un énorme projet qui vise à proposer par une application mobile de rétablir la confiance avec les citoyens. citoyens. Les citoyens peuvent exprimer les besoins dont ils ont vraiment besoin localement. C'est simple, c'est l'aménagement des routes, l'aménagement de l'électricité, l'aménagement des infrastructures. Et la ville, avec une entreprise française et l'État rwandais, prend en compte ces considérations pour développer les infrastructures qui sont la clé du levier du e-commerce. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si ensuite ces infrastructures sont dégradées, l'État s'engage à répondre auprès des consommateurs. C'est ça, rétablir la confiance.
On écoute aussi le message posté par Neuville. Il est à Matadi, dans le centre de la RDC, une ville de taille moyenne.
Vous voyez, le e-commerce ici en Afrique, précisément chez moi, ici au Congo, ces gens-là des marchés ne sont pas vraiment crédibles. Souvent, moi, je passe des temps à fouiner dans les sites internet. Souvent, ce sont des hackers qui créent des sites internet. Toi, tu penses que tu as acheté, tu vas valider tout, tu payes. Tu n'auras pas ta livraison. Ça ne sert à rien. Nous, si tu pars au supermarché, tu achètes tout. Même Amazon. Chez nous, ici, Amazon, tu peux acheter, tu n'auras pas ta livraison. Ce sont des gros bouffeurs et des gros menteurs.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, bah je crois que la messe est dite avec ce message de Neuville. Vous êtes tous rhabillés pour l'hiver. On accueille aussi Souleymane qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Souleymane.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde.
Vous avez 30 ans, vous faites des achats sur Internet. Quelles sont vos expériences ?
Bon, il m'est arrivé une fois, c'était l'année dernière, c'est-à-dire que lors du début de la pandémie au Sénégal, il y avait le début du confinement. Et du coup, il fallait faire des recherches pour certains achats parce que les libertés étaient vraiment restreintes. Donc, du coup, je devais chercher des écouteurs Bluetooth sur lesquels je pourrais travailler, je pourrais communiquer, etc. etc. Et voilà, j'ai fait des recherches, j'ai cherché des écouteurs Bluetooth. Mais sur la description, ce qu'on vous dit, c'est-à-dire sur la capacité du produit, sur la description, et à la livraison, il y a vraiment une grande différence, c'est-à-dire que d'abord sur la capacité, le design, la taille, mais aussi l'authenticité même du produit, ça laisse à désirer. Donc je l'ai acheté, je l'ai payé par Facebook, et une fois le livreur vous le ramène, vous le payez en cash. Et du coup, à ma grande surprise, une fois reçu le colis, j'ai ouvert, mais il dit que bon, là, pas le design que j'avais commandé ou bien la forme ne me plaisait plus. Oui. Et du coup, puisque j'avais déjà confirmé ma commande, je ne pouvais plus le retourner malheureusement. Ça aussi, c'est vraiment une déception. Mmh. Et c'était une première aussi.
Vous avez payé en cash à la livraison, hein, c'est ça, Souleymane?
Oui. Là, on paye en cash pour des pages Facebook. Donc, il y a des sites aussi dédiés, authentiques, sur lesquels vous pouvez payer en ligne, soit par des transferts d'argent ou des cartes.
Vous avez acheté aussi un petit frigo ?
Oui, c'est un refroidisseur, un petit frigo, donc qui peut garder des aliments ou des médicaments. C'était d'ailleurs pour ma mère. C'était dédié pour ma mère. Donc, du coup, et une fois que je l'ai commandé, le livreur me l'a amené. Mais devinez, une fois que je l'ai branché, il y a eu un court-circuit et voilà, donc le moteur a claqué, a cessé de fonctionner automatiquement. C'est là que j'ai perdu directement et j'ai appelé le vendeur. Il m'a dit que oui, si c'est possible, on peut le réchanger. Et du coup, et ben là, je ne voulais plus le réchanger. J'étais tellement énervé que je me suis dit que non, attends, je vais arrêter.
Le moteur du frigo a brûlé au premier branchement.
Au premier branchement. C'est-à-dire que même le voltage n'était pas réglé. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune information pour vous informer que, pour vous dire que ce frigo ou ce matériel peut être branché à tel ou tel voltage. Vous avez compris?
Merci beaucoup Souleymane. Effectivement, vous parlez aussi des explications dans la façon de vendre du matériel, que ce soit du matériel informatique, électroménager, des témoignages édifiants. Alors pourtant, c'est vrai, comme le disait Souleymane, Thierry Barbeau, avec la pandémie, beaucoup de consommateurs et de consommatrices ont été obligés de commander sur Internet. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelles sont les conséquences aujourd'hui ?
Alors effectivement, le fait d'être bloqué chez soi, de moins circuler, ça a quand même eu un effet d'essor sur le e-commerce. Et ça a permis surtout à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de structures et au marché informel africain, quelque part, de trouver des solutions, de s'adapter. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de compte en banque, puis surtout qui n'ont pas d'assurance. Donc par exemple, moi j'ai vu des initiatives assez incroyables voir le jour et qui fonctionnent même bien et qui vont résister à la pandémie. Par exemple, Toto Ribo, la fille d'une maman qui est cuisinière de rue, qui propose maintenant de vendre les repas que confectionne sa maman aux entreprises avec un système de livraison.
Où ça ?
Alors ça, c'est au Burkina Faso, à Ouagadougou. Mmh. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça touche la filière des femmes qui sont souvent démunies, qui sont ces cuisinières de rue, mais qui confectionnent des plats bio, des plats qui sont appréciés, qui sont vraiment adaptés à la culture locale, que tout le monde connaît.
Je ne sais pas si le bio, c'est la première préoccupation hein, quand on commande à manger
non,
à Ouagadougou.
Non, mais par contre, un des effets indirects intéressants, c'est que ça développe une filière d'agriculture, d'élevage, qui, elle, est bio, et qui permet aussi aux personnes en zone rurale, quelque part, d'approvisionner de manière plus structurée ces restaurants. Ces restaurants, ils se structurent, du coup, ils développent des expertises que vont gérer ces femmes, qui sont de l'accès à la comptabilité, à la gestion, à la création d'un compte en banque. Du coup, elles sécurisent aussi leurs revenus. Elles peuvent se fédérer dans des quartiers grâce à ce système de livraison en ligne. C'est aussi une sortie de l'informel, c'est une sécurisation.
Je vais poser la question à Bonnie Maya, qui est à Kinshasa, directeur général de e-Mart. Qu'est-ce que la pandémie a changé pour vous, pour votre commerce en ligne ?
Alors, pour nous, la pandémie est tombée au bon moment, je peux le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que nous étions, avant ça, nous étions en train d'investir sur l'éducation. Nous avons beaucoup travaillé sur l'éducation pour inciter les gens à faire de commandes en ligne. Ils pouvaient s'approvisionner en courses alimentaires sans se déplacer, sans rencontrer les vendeurs ou sans carrément remettre de l'argent en cash. Alors, avec la pandémie, beaucoup de gens ont appris qu'ils pouvaient rester chez eux, confinés, mais recevoir leurs produits. Parce que pendant le confinement de la ville de la Gombe, de la commune de la Gombe ici, pardon, nous étions quand même parmi les seuls services de livraison qui étaient autorisés à faire de va-et-vient dans la commune. Et nous avons approvisionné beaucoup de familles qui étaient confinées en produits alimentaires.
Ouais. Donc, vous le disiez, les consommateurs ont expérimenté parfois pour la première fois des achats sur Internet. Vous entendiez aussi les déceptions des auditeurs au téléphone ou dans les messages qui sont postés. Thierry Barbeau, l'état des lieux, si on regarde d'un pays à l'autre sur le continent africain aujourd'hui, est-ce que la pandémie a vraiment fait gagner des années sur la croissance de ce marché, du commerce en ligne ? Et puis, dans quel pays ça fonctionne plus vite aujourd'hui ?
Alors, à part quelques pépites, quelques endroits où il y a eu des initiatives locales très ponctuelles, c'est les pays où, effectivement, il y avait déjà eu un essor. Alors, l'Ouganda, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, des pays qui ont déjà, quelque part, un fort pouvoir de développement et des bonnes initiatives autour des infrastructures.
Le Maghreb,
qui ont un peu,
le Maghreb aussi,
bien sûr. Qui ont un peu surfé sur la vague, qui ont su tout de suite adapter un peu les modes de livraison des produits, ajuster leur système. Mais il y avait déjà une relation de confiance. Ça fonctionnait déjà correctement. Alors là, il y a eu une démultiplication de l'impact, de l'essor, un peu comme on a connu en Europe. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il faut aussi que l'Afrique se saisisse de ce marché. 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce dans le monde, 24 millions pour l'Afrique. Il y a quand même une marge colossale à avoir.
On peut dire que l'Afrique, pour l'instant, a une miette du marché du e-commerce. Ah bah 24 millions sur 1 milliard.
En termes de chiffre d'affaires, c'est une miette. Et puis, c'est une opportunité incroyable de surfer un peu sur cette crise pour permettre aux foyers africains d'être plus connectés, d'avoir, comme je le disais en préambule, un meilleur développement des infrastructures, une meilleure confiance, et du coup de sortir des exemples qu'on a entendus en ligne où les personnes sont extrêmement fâchées contre le e-commerce. Le e-commerce, c'est une relation de confiance. Il faut démocratiser les usages, avoir de bonnes infrastructures, avoir confiance en l'État, en les routes, en l'électricité, et surtout dans toute la chaîne d'approvisionnement et de logistique pour que l'usage se démocratise. Et après, l'effet bouche à oreille aura tout son sens et on pourra commander vraiment avec une totale confiance.
Alors justement, on parlait de toute cette chaîne. Il y a l'accès à l'électricité, l'accès à Internet. Notre invité Bonnie Maya nous disait Parler d'éducation aux consommateurs. Moi, je parlerai quand même de marketing, mais c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne. Lire un site internet ou un réseau social, mieux comprendre les annonces pour ne pas être déçu aussi à la livraison. Les toutes premières difficultés, une fois qu'on a réussi à commander son produit, il y a la problématique du paiement, Thierry Barbeau. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec le paiement en cash à la livraison, avec le mobile money, tout ça, le problème du paiement est derrière nous ?
Moi, je pense, oui, on va quand même pas répéter hein, toute cette incroyable éclosion et révolution des fintechs en Afrique avec l'histoire de M-Pesa, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on peut payer avec son smartphone, on peut payer en cash, on peut faire du click and collect, on peut payer en ligne si on a besoin, il y a des applications dédiées, il y a plein de produits qui existent. Ça, je pense que c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est la confiance, c'est le développement de ces infrastructures, c'est la logistique, c'est l'approvisionnement. C'est pour ça aussi hein, qu'il y a eu récemment, il y a un peu plus d'un an, un grand échec hein, sur une grande plateforme de e-commerce que je ne citerai pas. Et on voit qu'effectivement, Amazon n'est pas présent. C'est AfriMarket.
Oui, AfriMarket, parce que CFA aussi s'est retiré.
Effectivement. Puis il y avait eu l'opération Cdiscount.
Plutôt avec, Cdiscount, je voulais dire
avec
Cdiscount.
Avec le groupe
exact.
Bolloré et le groupe Casino, bien sûr, qui sont arrivés dans 4-5 pays de l'Afrique de l'Ouest et avec l'échec qu'on connaît.
Ça veut dire que quand même, on s'est beaucoup cassé les dents sur le e-commerce en Afrique.
Mais c'est très compliqué. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'électricité. Et puis, quelle garantie sur les produits ? Vous commandez aujourd'hui avec les grandes plateformes liées ou non au GAFA dans la plupart des pays développés. Si le produit ne vous plaît pas, si simplement il ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. En Afrique, quand vous êtes en brousse dans un village très éloigné et que vous avez une personne qui est désignée aux commandes de e-commerce, qui sait lire et écrire et qui va vous faire cette commande de frigo, eh ben, il faut qu'elle soit capable d'en assurer le suivi, la logistique. Et ça, c'est très important pour que l'usage se démocratise. C'est la clé.
Alors, on donne la parole à une auditrice qui nous a posté ce message. C'est Reine, elle a 25 ans, elle est au Cameroun.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Je m'appelle Reine et je viens du Cameroun. J'aimerais bien faire mes achats en ligne plus souvent, mais la qualité des produits n'est pas toujours au rendez-vous. Je m'intéresse particulièrement aux produits informatiques et à l'électroménager. C'est pourquoi je visite des sites comme Jumia, Glotello, Kikou. Il y a 4 ans, j'ai acheté un ordinateur portable sur Jumia. Il était censé être neuf, mais en réalité, il avait été reconditionné. J'ai dû le remplacer parce que le clavier ne fonctionnait plus. Toujours sur Jumia, j'ai acheté un robot mixeur. Malheureusement, l'un des deux accessoires ne fonctionnait pas. Qu'à cela ne tienne, j'apprécie les efforts de ces sites pour améliorer la qualité de leur service de livraison. Avec Glotello, vous pouvez vous faire livrer à domicile. Et si l'idée de partager des informations sensibles telles que votre adresse ne vous enchante pas, vous pouvez vous rendre directement dans l'un des points de vente de Glotello. Une option que je trouve également intéressante. Je vous remercie.
Merci à vous, Reine au Cameroun. Mohamed Abtesso, elle citait Jumia. Alors vous êtes directeur général de Jumia Sénégal et pas au Cameroun. Mais le fait qu'elle reçoive, on ne peut pas soupçonner Reine de ne pas avoir compris les explications sur le site internet, hein, quand on a des gens jeunes qui sont urbains, etc. Et comment se fait-il qu'elle reçoive un ordinateur qui est de seconde main alors qu'elle a acheté un ordinateur neuf, par exemple ?
Je vais quand même préciser. Il existe parfois des ordinateurs reconditionnés. Même en Amérique, Apple a ce genre de produit.
Oui, mais c'est bien précisé, c'est très visible.
Voilà, c'est très visible, exactement. Nous, pour le faire, on le met de manière très visible. Après, bien entendu, pour tous nos produits, comme elle le mentionne, nous, on a le système de retour, le système de la garantie qui peut intervenir. Je pense que c'est ce qui a amené donc cette cliente à recommander sur Jumia. Et bien entendu, le débat ou le challenge que nous avons, c'est bien entendu garantir la bonne qualité à toutes les expériences que nous avons avec le client.
Alors évidemment, dans les témoignages des auditeurs, tout se mélange aussi parce qu'ils commandent sur plein de sites différents. Ça peut être des petits commerçants sur les réseaux sociaux, ça peut être comme Glotello, un site de e-commerce au Cameroun, ça peut être Kikou, un web marchand chinois qui vend en Afrique. Et donc, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, de savoir quels sont les sites fiables. Ce qu'on comprend dans les témoignages, c'est qu'ils disent « ça progresse, mais pas encore assez ». Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste, Thierry Barbeau, à améliorer réellement pour que la qualité soit au rendez-vous, pour que les livraisons se fassent en temps et en heure, pour qu'il n'y ait pas de problème d'arnaque de paiement, etc. etc.
Alors, c'est vraiment la logistique, l'approvisionnement qui compte. C'est avoir des produits de qualité. C'est pas tout de vendre en ligne. Il faut être capable d'avoir des fournisseurs qui proposent des produits de qualité. Je citerai pas des pays ou des régions où on produit des choses qui sont effectivement très, très, très low cost en se disant, bah, on va bien les vendre et on va faire une bonne marge. Et ça, c'est un peu l'effet catastrophe. Ce qu'on entend, c'est beaucoup de témoignages de gens qui sont effectivement aussi pas satisfaits. Il y a beaucoup de gens à côté qui sont satisfaits. Mais effectivement, on exprime et on a envie d'exprimer son désarroi quand ce n'est pas le cas. Je pense que vraiment la clé, c'est démocratiser les usages, un peu comme on l'a vu avec la bancarisation par le biais du mobile. C'est faire en sorte qu'il y ait quand même beaucoup plus de commandes, plus d'approvisionnement. Du coup, une meilleure chaîne logistique, une baisse des prix et là, une relation de confiance. Effectivement, on subit dans certaines régions des balbutiements. Je pense que ce n'est pas représentatif de l'écosystème du e-commerce sur le continent africain. J'étais il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud, c'est quand même incroyable à quel point ça fonctionne bien. Ce qui est passionnant et ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est la façon dont on peut commander différents produits dans différentes zones adaptées à la culture et à l'écosystème économique local.
Justement, Bonimaya, vous nous disiez tout à l'heure, il faut éduquer le consommateur et je sais que vous avez aussi des reproches à faire aux clients. Les clients vous font beaucoup de reproches aujourd'hui dans cette émission, hein, vous les acteurs du e-commerce, mais vous aussi, vous dites parfois, les clients sont juste ingérables.
Oui, effectivement. Lors des livraisons, par exemple, on a des clients qui sont occupés, qui sont soit en réunion, soit indisponibles, et qui font attendre, pour mon cas par exemple, qui font attendre les livreurs Tinda pendant 2-3 heures au bas de leur immeuble avant qu'ils viennent récupérer leurs produits.
Oui. Alors, donc, ce sont des soucis comme évidemment, ça. Un livreur de chez Amazon en Europe, il ne vous attend même pas une minute trente, hein, si vous n'êtes pas devant votre maison ou devant votre immeuble pour aller récupérer votre livraison.
Alors nous sommes encore dans cette création de confiance, comme l'a dit Thierry tout à l'heure. Et nous sommes obligés d'attendre. Et parfois, quand il y a réclamation de produits, quand il y a réclamation sur la qualité du produit, c'est sur nous que ça tombe parce que nous sommes le service de livraison et c'est nous qui sommes face aux clients. Les cas, par exemple, de produits contrefaits ou des produits TOC hein, que certains clients reçoivent qui sont vendus en ligne, il faudrait savoir aussi que les sites e-commerce aujourd'hui travaillent beaucoup plus sur la compétitivité. Donc, ils vendent des produits à très bas prix et parfois, ce sont des produits fabriqués en Chine ou ailleurs qui coûtent très moins cher, mais qui sont de très mauvaise qualité. Et eux, par contre, les clients sont censés retrouver... En fait, ils sont plus poussés vers des produits qui coûtent le moins cher possible et avec cette envie-là de faire des bonnes affaires, quoi. Et quand ils reçoivent leurs produits face à eux, ils se rendent compte que c'est pour lequel ils ont payé cet argent-là. C'est un produit de basse qualité et ils réclament.
Comment vous êtes, alors vous en plus avec la plateforme e-mart, vous faites des produits frais, c'est encore plus compliqué, puisque c'est de l'alimentation. Comment vous devez vous réinventer au Congo, dans des villes, puisque vous êtes essentiellement à Kinshasa, mais pas que, aussi à Lubumbashi, à Goma. Comment vous faites pour vous réinventer en fonction des cultures locales, de la complexité des modes de vie sur place?
Alors nous, par exemple, sur e-mart, quand nous livrons nos produits auprès du bénéficiaire, il a le choix. Il choisit les produits de bonne qualité, les tomates de bonne qualité, les légumes de bonne qualité, les légumes fruits ou feuilles. Il choisit les produits qui sont juste de bonne qualité pour lui et ceux qu'il juge pas frais ou pas de bonne qualité, il le retourne. Et nous acceptons cela.
Oui, au prix de parfois une perte pour vous.
Exactement, mais c'est plutôt un investissement en éducation pour nous et en création de confiance.
Je sais que vous vous adaptez aussi, vous ne présentez pas forcément les produits en kilos, hein, parce que ce n'est pas forcément l'usage sur place.
Exactement, donc nous comprenons les cultures locales et nous travaillons également sur les standards locaux. Quand je dis cela, il y a certains produits ici qui ne sont pas commercialisés sur base du poids ou du kilo, mais qui sont commercialisés par rapport aux empaquetages locaux, aux standards d'empaquetage locaux comme le sakombi pour ceux qui concernent les haricots ou les farines. Et on a aussi jusqu'au ngongi, qu'on appelle en lingala, pour certains produits comme le sel ou d'autres poudres. Donc nous nous adaptons vraiment dans les packagings vraiment disponibles sur le marché congolais. Et nous faisons en sorte qu'ils retrouvent cette même expérience sur notre plateforme. Et c'est sur base de ça que nous créons notre valeur commerciale.
Ouais. Et votre valeur commerciale qui doit se réinventer en permanence pour s'adapter au système D sur place. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour nous raconter vos expériences d'achat sur Internet. Satisfait ou pas du tout? 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. C'est notre ligne WhatsApp pour pouvoir nous joindre, pour témoigner de vos expériences d'achat sur Internet, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. On en discute avec vous, Mohamed Abtesso. Vous êtes directeur général de Jumia Sénégal. Et puis Bonnie Maya, vous êtes directeur général de eMart, une plateforme de commerce en ligne de produits alimentaires en RDC. Et Tinda, c'est le service de livraison à domicile. Et bien sûr, Thierry Barbeau, vous êtes directeur numérique de l'ONG La Guilde et vous êtes aussi consultant en stratégie digitale sur le continent africain. On prend vos appels. On a Serge qui est à Cotonou, qui est développeur freelance. Bonjour Serge.
Bonjour.
Serge, vous êtes au Bénin. Qu'est-ce que vous observez? Et vous qui êtes développeur, est-ce que vous êtes vous travaillez pour le e-commerce, le commerce sur Internet?
Oui, je travaille pour l'Internet en général et pour le e-commerce de plus en plus. Donc, je dois reconnaître que c'est un domaine qui évolue, de plus en plus en vogue. Et les barrières sont levées de temps en temps. Au départ, c'était des problèmes de moyens de paiement, mais aujourd'hui, ce problème est levé. Il y a de plus en plus de solutions de paiement. Et il reste la barrière de la confiance, comme l'ont dit les prédécesseurs.
Mmh. Alors juste pour une petite précision, Thierry Barbeau, le problème du paiement est levé, c'est-à-dire qu'il faut continuer de proposer le paiement en cash pour certains clients, bien évidemment. Il y a du mobile money, il y a énormément de propositions maintenant, et puis il y a des agrégateurs de paiement aussi qui facilitent le paiement pour les consommateurs.
Oui, bien sûr, parce que la spécificité, c'est que les personnes, en fait, ont maintenant, avec l'incroyable pénétration du téléphone mobile, ils ont un, voire deux, voire trois ou quatre téléphones mobiles à multisim. Donc, ils jonglent entre les opérateurs. Quelque part, ces opérateurs télécom, c'est devenu aussi leur compte en banque mobile. Donc, il faut jongler avec les SIM, il faut jongler avec les numéros de téléphone, il faut jongler avec les applications qui peuvent payer avec telle ou telle plateforme en utilisant telle ou telle promotion. Donc, tout ça, c'est un exercice assez délicat et ça, c'est vraiment une grande expertise des différentes populations africaines, encore une fois, très contrastées selon les pays du nord, du sud, du Maghreb ou de l'extrême est de l'Afrique.
Serge nous le disait très clairement en tant que développeur à Cotonou, il reste quand même un gros problème, c'est la confiance. Aston nous appelle de Kigali au Rwanda. Bonjour Aston.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 35 ans, vous travaillez dans le e-commerce ou vous êtes consommateur?
Non, je suis juste un consommateur.
Oui, alors racontez-nous votre expérience.
Cela fait disons une dizaine d'années que j'ai commencé à faire du e-commerce personnellement. Et récemment, avec la COVID, la pandémie du COVID, il y a eu certains Rwandais qui ont développé des applications qui travaillent avec AliExpress. Donc, ces applications se chargent de l'achat et de la livraison à domicile. Mmh. Et vu que les compagnies téléphoniques du pays ont créé ce que vous venez de dire, le e-mobile, le paiement en ligne, donc tout se fait déjà au niveau de l'application. Donc, vous commandez et puis... l'application qui est chargée de livrer pour vous, vous livre ça à la maison. Moi, jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucun obstacle. Peut-être un ou deux jours de retard pour la livraison. Mais quand le produit arrive, il se charge de tout et puis il te contacte. Il y a des motos qui sont chargées de ça. Ils viennent et te livrent ton produit à la maison. Donc, je peux dire qu'au niveau du Rwanda, tout se fait facilement et que la plupart des clients sont satisfaits à ce niveau.
Quand vous dites au niveau du Rwanda, vous voulez dire au niveau de Kigali?
même à l'intérieur du pays, mais je préfère préciser au niveau de Kigali.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Mohamed Abtesso, vous êtes surtout présent dans les villes au Sénégal, mais vous visez évidemment l'intérieur du pays, vous visez des zones plus reculées. Comment vous travaillez avec des consommateurs qui, certes, peuvent avoir un smartphone, pas forcément de dernière génération, et surtout qui ne savent pas comment se débrouiller pour choisir le bon produit, pour faire en sorte que le produit ensuite arrive à bon port chez eux.
L'intérieur du pays ou les régions représentent un gros marché, c'est à peu près 50% en général pour beaucoup de pays, notamment la Côte d'Ivoire, du business e-commerce, parce qu'il y a un fort pouvoir d'achat. Et le principe, c'est on a une force de vente qui va placer des commandes pour les consommateurs qui n'ont pas accès à Internet. Et après, ces consommateurs se font livrer en point relais, parce que le système d'adressage est encore peut-être plus compliqué ou les distances sont encore plus éloignées en région. Donc le point relais répond parfaitement à leurs problématiques de réception de produits et bien entendu pour des questions de coût, ça leur coûte moins cher de récupérer leur colis en point relais.
Le e-commerce pour des zones plus reculées, pour les zones rurales, vous y croyez à moyen terme, à court terme, Mohamed Abtesso, pour un pays comme le Sénégal par exemple?
Oui, on y croit beaucoup, parce que comme je le mentionnais, la population en général, il y a un gros amalgame en disant qu'on parle du Sénégal, on pense qu'à Dakar, mais des villes comme Thiès, Mbour, Saint-Louis sont de grandes villes. La population de Dakar, c'est à peine 3-4 millions, et donc le reste, les 12 millions, se trouvent en dehors de Dakar. Donc, et pareil, on a une couverture, on parlait de la pénétration d'Internet, le territoire, au moins sur la partie mobile, est couvert à 95%.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Dakar au 33 7 64 45 51 41. Vous nous racontez vos expériences d'achat sur Internet. Amadou est en ligne avec nous.
Bonjour, Elifi.
Bonjour Amadou, vous êtes le bienvenu chez 7 milliards de voisins. On vous écoute.
Merci. Bon, moi, je suis à Dakar. Et par rapport à la vente en ligne, vraiment, j'ai vraiment la plupart de mes achats de bonnes expériences quand même. Parce que je le fais souvent sur Jumia, donc je pense que pour les délais de livraison aussi, pas de souci, bon, ça se fait en temps réel. Je pense que selon la disponibilité du produit quand même. Mais globalement, j'ai commandé diverses choses un peu différentes quand même, que ce soit de l'électronique, du vestimentaire, ou bien bon, par rapport à la téléphonie sur laquelle je travaille. Donc je pense que j'ai une bonne expérience. Et aussi, le plus important, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir quelqu'un en ligne et puis pour préciser certaines choses par rapport à un produit. Oui. J'ai eu une commande, par exemple, un survêtement où il n'y avait pas les tailles. Et bon, j'ai appelé et on m'a mis en rapport avec quelqu'un en ligne, et un commercial en ligne, et vraiment qui a pu prendre ma commande et puis ma taille et tout. Et vraiment ça, j'ai apprécié quand même.
C'est intéressant votre témoignage, Amadou. Alors je précise que ne le prenez pas mal, hein, mais vous avez 53 ans, donc vous voyez, on entend vraiment des auditeurs de toutes les générations qui nous appellent, des gens qui ont 20 ans, 25 ans et plus. Vous n'êtes pas né avec la culture digitale, avec la culture de l'Internet.
Absolument.
Et malgré tout, vous êtes tout à fait satisfait du service. Mohamed Abtesso, les consommateurs continuent de vous réclamer d'avoir la possibilité de discuter avec un intermédiaire au téléphone, une personne humaine.
Absolument, c'est une première étape pour la confiance, avoir quelqu'un au téléphone. Partout, hein, même dans le monde entier, le e-commerce s'est fondé, je pense, les premiers pas, la vente à distance. On avait toujours dans le nord de la France, donc par correspondance pour être plus précis, et les gens avaient toujours besoin d'avoir un interlocuteur. Donc aujourd'hui, si je prends notre exemple, au Sénégal, c'est à peu près 18% des ventes se font parfois au téléphone, selon les mois. Et je vais quand même revenir sur un point aussi important sur le potentiel de l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez mentionné 24 millions, et c'est 24 millions, donc 24 milliards de chiffre d'affaires projetés.
Donc il y a quand même projeté, pas réel. Hein.
Oui, exactement, projeté, exactement. Donc en milliards, hein. Donc,
D'accord. Thierry Barbeau, quand on évoque le développement du e-commerce, on parle beaucoup quand même des gens qui sont en ville, les gens qui nous appellent, les consommateurs sont en ville. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans les zones rurales? Il y a l'énorme frein de l'électrification, de l'accès à Internet, mais malgré tout, aujourd'hui, le commerce en ligne se projette aussi dans ces zones-là à terme?
Oui, absolument. Là, on parlait du Sénégal et j'étais il n'y a pas longtemps à Palmarin, avant la Casamance, au sud du Sénégal. Et c'est des zones où vous avez 170 jours de délestage en moyenne par an, c'est-à-dire de coupure d'électricité. Eh ben, on voit des utilisateurs qui vont commander des kits solaires pour s'équiper avec des énergies renouvelables pour pallier à ces problématiques. Et je pense que c'est un point crucial. Le e-commerce peut être un levier du développement en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il faut à peu près 100 milliards d'investissements pour 2030 pour que les Africains soient véritablement connectés. Il n'y a pas plus de 18% des foyers africains connectés aujourd'hui. Si on les connecte, ils auront plus d'accès à l'éducation, par le biais aussi des plateformes de e-commerce. Ils auront plus d'accès par le biais des tablettes et des contenus, bien sûr. Et là aussi, il y a beaucoup d'opérateurs qui agissent. Par le biais de l'énergie, on en a parlé avec les kits solaires. La possibilité aussi de commander tout ce qui est autour de l'agriculture, les semences, les engrais. Donc c'est vraiment un effet levier pour ces zones rurales qui en ont cruellement besoin, car elles ne sont pas industrialisées et pas équipées. C'est vraiment un gros effet levier, il ne faut pas le sous-estimer. Ça touche toutes les thématiques du développement, l'eau, l'entrepreneuriat, la mobilité, l'éducation, l'agriculture. C'est des piliers pour que l'Afrique vraiment soit la locomotive de la croissance mondiale. C'est important.
On entendait un développeur tout à l'heure. Je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui a posté ce message sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Stéphanie est à Abidjan, elle est entrepreneuse.
Bonjour, le e-commerce se développe en effet en tant que créatrice de vêtements. J'ai constaté que le principal obstacle à ce développement, c'était en fait le transport régional ou international, car au niveau local, en général, ça se passe assez bien. Il y a des sociétés très efficaces de livraison, mais dès qu'on veut sortir des frontières du pays, ça devient assez compliqué et surtout assez cher. Compter pour un envoi avec une grosse société de la place que je ne vais pas nommer, une vingtaine de dollars peut-être par envoi. Sauf évidemment si vous faites des très gros volumes, alors là vous pouvez commencer à négocier vos tarifs. Mais bon, déjà avant d'en arriver là, il faut quand même pouvoir passer par un stade intermédiaire qui est donc difficile à atteindre puisque justement ce commerce intra-africain se fait difficilement en raison des coûts de transport qui restent excessivement élevés. Merci.
La problématique des coûts de transport pour cette commerçante créatrice, Mohamed Abtesso, vous êtes confronté aussi à ce problème-là chez Jumia?
Donc, il y a deux sujets à ce niveau. Il y a le sujet du transport interrégional à l'intérieur du pays et il y a le sujet du transport cross-frontière, cross-frontalier. Et qui est présent. Donc chez Jumia, il y a bien entendu la logistique, la partie livraison coûte cher particulièrement, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, le service de point de livraison est présent et permet de réduire les coûts. Après, pour une petite PME qui veut s'exporter, je pense qu'il y a beaucoup de... On doit s'appuyer sur les pouvoirs politiques pour savoir quelle est la législation en face, parce que la question des taxes, il y a la ZECAP qui vient d'être lancée, donc effectif depuis le 1er janvier, mais l'application encore reste pour nous pas très claire d'un point de vue commerce transfrontalier. Dans tous les cas, nous n'opérons pas de transport transfrontalier, mais il arrive que différentes entités puissent gérer localement chaque transport. Donc voilà, en fonction des problématiques de chacun, on peut répondre à la demande.
Bonnie Maya, vous qui avez une plateforme de livraison, alors vous êtes évidemment sur du local. Quand vous envisagez une extension, est-ce que c'est un problème que vous prenez en compte?
Oui, effectivement, c'est un problème, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien en exportation. Parce qu'à l'intérieur du pays, nous avons moins de 20% dans les taux de couverture de route. Les routes revêtues, et donc c'est beaucoup plus difficile pour nous de faire des livraisons dans certaines régions du pays. Ce qui fait que nous avons développé de points relais. Il y en a 37 à travers les deux pays, à travers le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, où nous travaillons également. Mais ça reste quand même très difficile. Pourquoi ? Parce que les commandes sont, surtout les commandes test, ne dépassent généralement pas les $50 de valeur du panier. Et quand nous faisons des envois, les coûts de chaque envoi peuvent dépasser légèrement le $20. Comme la dame vient de mentionner, elle n'a pas précisé que c'est $20 le kilo.
Oui.
Donc parfois ça peut être excessivement cher par rapport au panier. Il faut tenir compte également du pouvoir d'achat de la personne qui vit en milieu rural. Hein. Donc c'est pas une personne qui fera $500 de commandes. Donc c'est des petites commandes. Et des petites commandes sur lesquelles on applique également les frais de livraison à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a cette barrière-là à l'entrée. Mais même côté exportation, parce que, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, la ZLEC n'est pas encore en application. Et déjà promulguée, mais n'est pas encore en application effective. Donc ce qui fait que nos produits doivent subir quand même des coûts d'exportation. Et nous savons tous que dans certains pays africains comme le nôtre, les coûts, que ce soit à l'export et à l'import, sont excessivement chers. Parfois, le 50 ou 60% le coût du produit. Donc ça décourage énormément.
Mais c'est pas spécifique au e-commerce. En tout cas, Bonny Maya, vous avez décrit dans un pays où vous travaillez de plus de 80 millions d'habitants, la RDC, vous avez décrit finalement tous les freins pour que la croissance soit vraiment au rendez-vous pour une PME comme la vôtre, que ce soit du commerce en ligne de produits alimentaires ou du service de livraison à domicile. Thierry Barbeau, l'Afrique a inventé par ses usages le paiement mobile qui est arrivé plusieurs années après en Europe, hein, chez nous. La France commence à peine à découvrir les vertus du paiement des achats en ligne avec du cash, hein, pour des petits achats. C'est la Brinks, spécialiste du transport de fonds, qui est en train d'installer ça chez nous en France, alors que évidemment en Afrique, ça se fait depuis des années. Il y a une formule entendue dans une région française très rurale, c'est la Creuse, où certains disent, on a un retard d'avance. Est-ce que c'est une formule qu'on pourrait employer pour le continent africain sur certains usages qui se sont développés, qui ont été inventés, notamment avec l'arrivée du digital ?
Ah oui, moi je pense que on le constate, des opérateurs comme un des plus connus en France qui tentent d'initier des systèmes en ligne de transfert d'argent, et ça marche avec les jeunes, moins avec les personnes plus âgées, où aujourd'hui on pilote sa banque avec le téléphone mobile. Effectivement, nous on est dans des pays qui sont industrialisés depuis longtemps, on a des banques, on a des murs, on a des salariés, on a des banques qui ont de l'investissement immobilier, elles ont parfois pas très envie qu'on passe sur du mobile money où les frais sont beaucoup moins onéreux. Par contre, dans des pays en voie de développement, on ne va pas se mettre à construire des banques à tous les coins de rue. Et on marche avec du cash, de l'informel. Ça revient à ce que vous disiez en introduction, c'est la relation de confiance. Est-ce que j'ai confiance en ma banque et comment je vais faire ? Donc aujourd'hui, on a une effervescence d'initiatives qui disruptent les technologies et qui doit être connectée aux humains qui sont les utilisateurs finaux. Et ça, c'est la clé. Mais effectivement, ça part un petit peu dans tous les sens. Et il y a des initiatives qui perce, et ça veut dire qu'il y a une ouverture de progression des marchés locaux qui est absolument colossale. On va voir avec l'accroissement du développement des infrastructures et de la collectivité, l'accès à Internet va être de plus en plus démocratisé.
Donc y compris pour des petits commerçants, hein, qui vont pouvoir vendre sur Internet.
Mais bien sûr, puisque l'enjeu...
On l'a découvert pendant la pandémie, notamment avec les restaurateurs.
C'est ça. Alors, on a peur des GAFA, on a peur de ces mégastructures qui font un business colossal et qui maîtrisent la chaîne logistique. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils sont ouverts aux marketplaces qui vont permettre à des petits vendeurs, à des petites PME, des petites structures de vendre leurs produits ou leurs services.
Ouais, et c'est là... votre cas d'ailleurs, hein, pour Jumia Sénégal, Mohamed Abtesso. Vous travaillez avec des gros partenaires. Hein, ça peut être Carrefour, par exemple, mais vous travaillez aussi avec des petits.
Exactement. On a 2000 vendeurs actifs au Sénégal. Un groupe, on a plus de 100 000 en Afrique. Mais donc ça va du plus gros vendeur. Et donc là, eux, ils sont capables, les questions de qualité sont vite réglées. Et on a aussi les petits acteurs, les PME, les gens qui n'ont pas de boutique physique forcément et qui se lancent dans le commerce. Et donc c'est très important. Et c'est eux qui garantissent justement l'assortiment multiple de tous les produits qu'on peut avoir et qui permettent d'être pertinents pour le consommateur.
L'inventivité dont on parlait, Bonny Maya, vous êtes d'accord avec cette formule ? Vous avez un retard d'avance ?
Oui, effectivement, mais Donc, c'est cette résilience-là qui nous a permis de lutter contre cette période de pandémie. Aujourd'hui, par exemple, sur Kinshasa, vous avez beaucoup de vendeurs qui ne sont pas sur Jumia, parce que Jumia n'est pas encore là, mais qui sont sur des réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp, qui ont des comptes WhatsApp professionnels ou des comptes Facebook professionnels, des pages, et qui vendent. Et il y en a énormément. Et nous chargeons de la livraison auprès de leurs clients à travers le pays. Et ces gens-là représentent quasiment les 60% de notre chiffre d'affaires actuel.
Énorme développement, en tout cas prévu. Il faudra se retrouver dans quelques temps pour faire le point. Je vous livre, avant qu'on se quitte, deux, trois témoignages. Michel, qui est à Mbour au Sénégal, lui, il dit qu'il n'est pas très content de Jumia parce qu'on ne voit pas bien le descriptif ni la qualité. Pas de photos. Du coup, j'ai acheté ma gazinière en ville. Le service n'est pas adapté, selon moi. Khadija, qui est à Ouagadougou, qui dit « Moi, j'achète de la nourriture, des vêtements, des cosmétiques sur des pages Facebook burkinabé. » parce que les sites comme Amazon m'ont refusé ma carte bancaire. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire. Vous, en tout cas, vous faites cette émission grâce à vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à nous appeler, à nous envoyer vos messages. Et merci à vous Thierry Barbeau, directeur numérique de l'ONG La Guilde et puis consultant stratégie digitale en Afrique. Mohamed Abtesso, directeur général de Jumia Sénégal, merci d'avoir été en ligne avec nous de Dakar. Et Bonnie Mayap, merci d'avoir été en ligne en direct de Kinshasa. Vous êtes le directeur général de Imart et de Tinda. Imart, c'est des services d'alimentation et Tinda, c'est de la livraison à domicile. On se quitte avec le duo Pape Diouf, Ina Modja, dernier album Far West Africa. Ugliness and beauty are like sisters of the same metal. You can pick your side. Who will roll the dice? Who's the player? Gold never falls far from the bankster.
S'il le vaut de l'or sous l'équateur, le salaire à payer c'est la sueur. À chaque sa veine, chaque son heure, c'est la règle d'or ici.
In the wild, wild west, we the soul of far west Africa.
Where we'll rise, where we'll fight for better days in Africa.
In the wild, wild west, we the heart of far west Africa.
Where we'll rise, where we'll fight for better days in Africa.
Li ñu war moy bolo jappante jema don ben kon na ndaw Africa juklé.
Oh ambe segeni hamide la shunitle che faram soka ambe ji jalembe angasini nyesiki otan kono na filiko Africa tu masera beka wili.
In the wild wild west we the soul of our west Africa. We will rise, we will fight for better days in Africa. In the wild, wild west, we're the heart of far west Africa. We will rise, we will fight for better days in Africa.
We can build hope from a pile of garbage. We the people need access to the backstage.
Africa mandal mande bagnala
fara findeu anga bwili kanjo anga far west africa
africa
anga bole di nyogama anga fara nyonga in africa
mande bagnala nanulen jog bolo tak tak far west africa. Africa, sumu continent, yoko mo far west Africa.
In the wild, wild west, we the soul of far west Africa. We will rise, we will fight for better days in Africa. In the wild, wild west, we the heart of far west Africa. We will rise, we will fight for better days in Africa.
Demain, 7 milliards de voisins, quand les jeunes quittent le nid familial, c'est inéluctable, les mères pleurent, les pères ne montrent rien ou pas grand-chose, c'est le syndrome du nid vide. Jamais vraiment vide en Afrique d'ailleurs, hein, le nid, où il y a tellement de cousins, de cousines à accueillir, tandis qu'en Europe, depuis la crise des années 2010, l'allongement de la durée des études et maintenant le chômage dû à la pandémie, les jeunes quittent la maison de plus en plus tard, 26 ans en moyenne, c'est l'âge des jeunes lorsqu'ils partent. On en discute demain.
Écoutez-moi.